Parler de la période du Homer. Donc là, pour comprendre, donc il y a deux choses dans la période du Homer. Il y a d'une part la période du Homer en tant que conte qui nous permet d'arriver à Shavuot. Et il y a autre chose qui est venue se greffer beaucoup plus tard, c'est le deuil, la période de deuil. Donc la période de deuil, elle est due à la disparition des élèves de Rabbi Akiva. Et il faut comprendre en quoi c'est quelque chose de très grave qui a nécessité la fixation d'une période de deuil national, pratiquement, enfin, pour tout l'ensemble de l'armée israélienne. Alors, pour comprendre ça, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de Pessah. Donc, on va revenir un peu en arrière. Donc, les Bnei Israël, ils sont en Égypte. L'Égypte, c'est le concept même de l'Égypte, c'est l'oppression. Le mot Mitzrayim lui-même signifie quelque chose comme ça, un étau qui se referme. D'accord? C'est entre deux Metzarim, entre deux barrières qui sont un étau qui, au fur et à mesure, est en train de se refermer sur ceux qui sont à l'intérieur. Donc, il est impossible de sortir d'Égypte. Et là, donc, ça ressemble un peu à un utérus, en fait. Ça paraît bizarre, mais c'est comme un utérus dans lequel l'embryon est en gestation. Donc il est bloqué, il peut pas sortir. Et la sortie d'Égypte, c'est une naissance. La naissance de Ham Israël. Mais la naissance de Ham Israël, une femme, quand elle accouche un bébé qui est tout petit. Et la naissance d'Israël, c'est la naissance d'un enfant qui est adulte. Am Israël, au moment de la sortie d'Égypte, il est adulte. Il est structuré. C'est-à-dire, ce que les Bnei Israël ont obtenu en un jour, un peuple pour se former avec ses institutions et avec tout ce qui va le composer, la société de ce peuple, ça va lui prendre des centaines d'années. Et Am Israël, en un jour, il est formé comme un adulte. Et ça, c'est ce qu'on obtient le soir du Seder. Donc le soir du Seder, qu'est-ce que ça veut dire être adulte? Ça veut dire avoir une conscience adulte. Il y a une différence entre la conscience adulte et la conscience enfantile d'un enfant. Donc, quelle différence que les kabbalistes, ils appellent Mohin de Gadlout et Mohin de Katnout. Le Mohin, c'est le fait d'avoir une énergie intellectuelle qui permet de prendre conscience des choses. Alors, un enfant, il a conscience que de lui-même, c'est-à-dire il lui semble que le monde est à son service. On remarque quand le bébé, il est dans son berceau, il suffit qu'il crie, qu'il pleure, tout le monde est autour de lui et s'occupe de lui. Donc il grandit avec cette conscience que le système, tout ce qui compose le système est à son service. Et quand il va prendre conscience que ce n'est pas comme ça que ça se passe, donc il va devenir adulte. Il va comprendre que c'est lui qui est au service du système et non pas que le système est à son service. Ça, c'est la notion de Gadlout, c'est grandir, être au service des autres, au service de Dieu, etc. Enfin, au service du projet divin. Et ça se passe le premier jour de Pessah. Premier jour de Pessah, on prend conscience, c'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte, la difficulté en général d'un individu, c'est de se retrouver dans la libération ou dans le système. C'est-à-dire, si on imagine un peuple qui a été opprimé, qui s'est débarrassé de son oppresseur, ceux qui se sont débarrassés de leur colonisateur, donc alors le peuple s'est libéré. Mais le simple individu, en quoi lui, il a été libéré? Alors, lui, est-ce que son sort va s'améliorer, va être meilleur maintenant qu'il n'était auparavant? C'est quoi la place qu'il aura dans ce système-là? Et ça, c'est Am Israël va obtenir pour chaque individu une place. C'est-à-dire, on va comprendre l'harmonie qu'il y a entre l'intérêt général et l'intérêt individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Bien qu'en général, on peut trouver qu'il y a une contradiction entre l'intérêt de la société française et l'intérêt de chacun des Français. Il suffit de mettre les infos, quoi. L'intérêt général de la France, c'est de faire des restrictions budgétaires à la SNCF, mais l'intérêt des cheminots, c'est est ailleurs. Donc on voit qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais là, il y a, c'est ça la plénitude de la délivrance, c'est qu'il y a une harmonie complète entre l'intérêt général et l'intérêt de l'individu. D'ailleurs, l'intérêt de l'individu ne peut se réaliser, et l'individu ne peut s'épanouir que dans l'intérêt général. Et ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on revit, si on veut, quand on fait le CEDER. C'est à ça qu'on aspire. Et chaque élément du CEDER, c'est une énergie intellectuelle de connaissance et de compréhension des choses. Donc c'est tous les étapes du CEDER, c'est ça en vérité. Au fur et à mesure, donc on mange, pourquoi on fait kiddush, on a une conscience de du jour. Donc que ce jour-là, il est un jour spécifique, particulier, on a conscience de ça. C'est la notion du kiddush. Après on prie carpas, pour permettre à l'enfant de poser des questions. Mais si on arrive à poser des questions, c'est-à-dire qu'on a une conscience de pouvoir poser la question, etc. Et tout le long du CEDER, on mange la matzah, on raconte, etc. Tout ce qu'on fait, c'est pour emmagasiner des énergies qui nous permettent de prendre une dimension adulte, de compréhension. Ça se passe le premier jour. Et à partir du deuxième jour, ça s'est retiré. Donc, et à partir de là, chacun doit poursuivre un cheminement pour récupérer ces éléments-là qui ont laissé une trace. Donc il y a une trace en nous de cette conscience qui, au fur et à mesure des jours qu'on compte jusqu'à Shavuot, on doit les récupérer. Donc c'est ce qu'on appelle, et ça se récupère progressivement. Donc c'est ça le sens du Homer. Donc on voit qu'on passe d'un concept d'intellectuel, d'adulte, de compréhension globale, complète, et on va passer maintenant, pendant le Homer, à une compréhension restreinte, de chaque élément séparé. C'est le sens du Homer, c'est le sens du conte du Homer. C'est pour ça que le Homer, il est compté à partir du deuxième jour de Pessah, et le deuxième jour de Pessah, on apporte un korban, qui est korban à Homer, qui est une offrande de farine, qui est faite avec de l'orge. L'orge symbolisant l'aliment de l'animal. L'homme ne mange pas d'orge, il mange du blé, et l'animal mange de l'orge. Donc c'est pour montrer que l'homme a une compréhension restreinte. Donc il y a une différence fondamentale entre la connaissance globale, prendre de la hauteur, c'est-à-dire se détacher, prendre de la hauteur, avoir une vision globale, prendre du recul, et maîtriser les choses, avoir une compréhension générale bien enveloppante du projet, et avoir une compréhension étriquée. Donc, à partir du moment où on restreint, c'est la rigueur qui s'applique. La notion de restriction, de compréhension réduite, de réduire, c'est le din. Et c'est pour ça que dans cette période-là, c'est une période de din. Et c'est pour ça qu'est venu se greffer ce concept des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts justement pendant cette période. On verra en quoi ça a un lien. Pourquoi ils sont morts là et pas à un autre moment. C'est-à-dire, est-ce que c'est fortuit ou bien il y a une relation, parce que ça s'est passé 1000 ans plus tard, quoi. Plus que 1000 ans, quoi. C'est 1500 ans plus tard que ça s'est passé. Donc il y a 2000 ans de ça à peu près, ils sont morts, et 1500 ans avant, il y a eu la sortie d'Égypte. Donc c'est fortuit, quel lien y a-t-il? Maintenant on va essayer d'expliquer c'est quoi, les femmes ne comptent pas le Homer.
C'est pas vrai,
les femmes, non, les femmes ne comptent pas le Homer, les Mkoubalim disent, bon il y a des rabbins qui disent que les femmes peuvent compter sans bracha, mais les Mkoubalim disent que les femmes n'ont pas dans cette misva-là de... Il ne faut pas qu'elles comptent. D'ailleurs, c'est déconseillé, d'après le Zohar, de qu'elles comptent. Bon, peu importe. Mais il faut comprendre c'est quoi le compte du Homer. Quand on fait la bracha, c'est-à-dire quand on compte les jours. Alors, par exemple, aujourd'hui, On est 16 jours du Homer. Alors, on ne dit pas aujourd'hui, on est le 16e jour du Homer. On ne dit pas le 16e. On dit aujourd'hui, Ayom, Shisha, Asar, Yom, la Homer. Aujourd'hui, il y a 16 jours dans le Homer. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi cette manière de compter? Il y a 16 jours, aujourd'hui, il y a 16 jours dans le Homer. Mais c'est quoi le Homer? C'est quoi ce concept, ce mot? Que signifie le terme Homer?
C'est une mesure,
d'accord. Alors, c'est une mesure, c'est un kilo, un kilo et demi, je ne sais pas combien il y a, 2 kilos. Alors c'est quoi, on compte des jours dans un kilo, quel sens ça? Que ça veut dire? Ayom, Shiva, Shisha, Asar, Yom, la Homer. C'est quoi le mot la Homer? Ça aussi, ça, c'est étonnant, ça pose problème, on ne sait même pas ce que ça veut dire, quoi. Par rapport au Homer, c'est bizarre. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront certainement, de manière certaine, expliquer le sens vrai de ces termes-là. Mais on va essayer un peu de... Homer, c'est... Donc, dans les Sidourim, alors on nous raconte que ce sont des midot, des qualités que nous devons acquérir. Alors, la première semaine, c'est la qualité de la bonté, qui est elle-même divisée en 7. Donc il y a sept qualités essentielles, enfin qualités, midot, on va appeler ça des midot. Kadosh Baruch Hu a associé sept midot pour créer le monde. Quelles sont-elles, ces midot? C'est celles d'Abraham, on va prendre des personnages qui les symbolisent. Alors il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David. Abraham, c'est l'amour. Abraham, c'est la midot de Hesed, ça veut dire l'amour. L'amour, ça veut dire quoi l'amour? L'amour sans compter. Sans limite, sans compter, sans que... Pardon? Non, oui, mais plus que ça, c'est-à-dire que même si la personne n'en veut pas, on lui donne quand même l'amour. D'accord? C'est pas en veux-tu. C'est-à-dire, lui, il donne, même si la personne en face, elle veut pas, il lui donne quand même. Yitzhak, c'est la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire, la rigueur? Ça veut dire qu'il faut mettre une limite à, il faut mettre une limite à cet amour. Ça veut dire, que ça veut dire la rigueur? La rigueur, c'est, ça va permettre à l'amour de s'exprimer. Parce que, pardon? C'est pas, non, pas obligatoirement une barrière, c'est, je donne généralement l'exemple suivant. Quelqu'un, il a soif. L'exemple, je donne toujours le même exemple parce que c'est un exemple et, qui marque, qui est compréhensible. Si quelqu'un a soif, alors il y a un type qui vient avec un verre en plastique, il dit j'ai soif. Il dit moi je te donne, mais moi je vais te donner de l'eau, mais moi je donne pas un verre d'eau. Moi je donne. Je donne comment? Je donne beaucoup d'eau. Je suis celui qui donne. Ça va jaillir. Alors j'apporte un truc de pompier, une lance de pompier, et j'ouvre la lance de pompier, je dis voilà je te donne, et je te donne avec un flux extraordinaire, puissant, etc. Le gars il amène son verre, il arrive pas à remplir, c'est tellement puissant que le verre n'arrive pas à se remplir. Donc c'est quoi la rigueur? La rigueur ça va réduire, ça permet de réduire la puissance de sorte que le verre puisse se remplir. C'est-à-dire il y a Abraham, il a tellement d'amour à déverser, à donner et à diffuser que celui qui va le recevoir, il n'est pas capable de le recevoir. Il y en a trop. Donc il faut réduire, mettre, adapter ce que celui qui veut donner s'adapte à par rapport à la capacité de celui qui a de recevoir. Ça c'est la rigueur, c'est un concept de rigueur, c'est ça Yitzhak, c'est ça le... Donc c'est ça ce qu'on dit, le deuxième jour du Homer, c'est la gvura dans le hesed, c'est-à-dire c'est la rigueur dans l'amour. C'est quoi la rigueur d'amour? Ça va permettre à l'amour de se réaliser parfaitement. La troisième mida, c'est l'harmonie. C'est-à-dire qu'il y a, une fois la rigueur, c'est la sanction. On va réduire, on va sanctionner, on va juger selon le mérite. Et des fois, on va pas tenir compte du mérite et on va donner même s'il ne mérite pas. Donc c'est arriver à faire l'harmonie entre les deux. C'est la mida de Yaakov. C'est la Torah. Donc les trois éléments, Abraham, Isaac et Jacob, en réalité, ils forment le symbole du jugement. Et le jugement, c'est quoi? C'est une balance. Il y a deux plateaux de la balance, à droite et à gauche, et le fléau qui maintient l'équilibre. Cet équilibre-là, c'est Yaakov Avinu. Et les trois forment le concept même du jugement. Il y a le défenseur, il y a l'accusateur, et il y a celui qui va trancher. La réalité, elle est telle qu'il faudra trancher et juger et sanctionner selon les capacités de l'accusé de subir le châtiment. On ne va pas donner à quelqu'un un châtiment qu'il n'est pas capable de subir. Donc c'est ça. Après, ils viennent. Donc là, on est au niveau de l'émotionnel. Puis viennent Moshe, Aaron et Yosef, qui sont dans le même système. Moshe, il est à droite. C'est la Torah, l'amour de la Torah. C'est l'ambition d'atteindre des niveaux, de s'élever, etc. Et Avraham, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on a l'ambition, l'ambition qui est sans limite, on peut arriver à l'orgueil. Donc on a besoin d'Aaron. Moshe a besoin d'Aaron pour le cadrer. Pour le cadrer. Et Yosef, il n'a pas de volonté propre, il est celui qui récupère tout ce qu'il y a au-dessus, les qualités des uns et des autres, et qui va les canaliser vers ce qu'on appelle le malchut. Malchut, c'est-à-dire, c'est la noblesse, la royauté, c'est David. David, il n'a rien de lui. David, il est un pauvre. C'est la pauvreté, c'est celui qui ne détient rien de lui-même, c'est celui qui est mis au-dessus des autres, par la volonté des autres. C'est ça la notion de royauté. Donc ces midotes-là, ce sont les midotes par lesquelles Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Par lesquelles Akadosh Baruch Hu il gère le monde. Et on doit les adopter. Il convient, donc c'est le sens de la Sphira, de compter, c'est d'adopter ces qualités-là, de les faire siennes et d'essayer de grimper les échelons. Donc il y a 49 jours qui vont nous permettre d'atteindre le 50e. Donc il y a une mitzvah de compter les jours, il y a une mitzvah de compter les semaines, et il y a une mitzvah de réunir, de faire le compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... c'est pas deux mitzvot séparées, mais c'est les deux qui font. En vérité, la mitzvah de compter les semaines, c'est juste quand on arrive à la première semaine, on compte 7 jours. Alors le 7e jour, on dit, il y a une mitzvah de compter la semaine. C'est quoi aujourd'hui? On est une semaine. Après, on compte 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14e jour, on dit, il y a 14 jours qui font 2 semaines. Mais aujourd'hui, on compte tous les jours. On dit 2 semaines et 2 jours, 2 semaines et 3 jours. Mais en fait, la mitzvah essentielle, c'était de compter les semaines pleines. Parce qu'à partir du moment où on est arrivé à une semaine, donc le sens des jours, c'est que ces jours-là forment une semaine. Et que les semaines s'inscrivent dans le compte des semaines. Donc c'est un système qui doit être harmonieux. Donc on remarque que depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, on est en train de construire un système. C'est comme si quand on enfilait des perles. Donc le collier, il ne sera terminé, il n'aura de valeur de joyau que lorsque le dernier jour arrivera. Tant que le dernier jour n'est pas arrivé, donc il est incomplet. Donc c'est le sens de Homer. C'est ça le Homer. Homer, c'est un tas, mais c'est un système en vérité. Ce Homer-là, c'est un tas. Donc les jours que l'on compte s'inscrivent dans un système qui est le Homer, c'est le système qui s'appelle un Homer, et qui vont, et les jours que l'on compte doivent former ce Homer. C'est ça le sens de Al-Sefirat Ha-Omer. Alors quand on compte aujourd'hui, on est 15 jours du Omer, la Omer, par rapport au premier Omer. Le premier Omer, c'était le sacrifice par rapport au jour où on a apporté l'offrande. Donc le deuxième jour de Pessah, on a apporté une offrande sur le Misbéar qui était cette offrande d'orge. Alors à partir de là, on commence à compter. Donc je compte les jours par rapport donc à ce jour, au moment où on a apporté le sacrifice. Donc il y a un lien entre le fait de compter et le fait d'avoir apporté un sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui est relié, qui est une entité. Les éléments qui forment la mincha, l'offrande, ils sont liés entre eux. Et c'est le sens qu'il faut avoir, la kavana qu'il faut avoir, quand on compte le homer. Il ne faut pas compter un jour pour un jour. Il faut compter un jour et l'inscrire dans le système. C'est pour ça qu'on ne dit pas aujourd'hui on est le deuxième jour, le troisième jour. On dit aujourd'hui c'est 2 jours du Homer. Parce que chaque jour, quand je compte aujourd'hui le 16e, on est le jour 16, ça veut dire que je ne compte pas un jour, je compte 16 jours. J'ai avec moi 16 jours. Ce jour-là, il porte en lui les 15 premiers et il s'ajoute aux 15 premiers, etc. Donc quand on arrive, en ayant construit ce système-là, à 2 semaines, 3 semaines, au fur et à mesure des semaines, on a un système qui est harmonieux. Donc le sens est ici aussi un élément. Par exemple, quand on lit en hébreu, on lit de droite à gauche. D'accord ? En fait, on écrit de droite à gauche, mais en vérité, c'est pas vrai. Les lettres, quand on écrit les lettres dans le Sefer Torah, vous remarquerez, on les écrit de gauche à droite. Donc, quand on commence à Aleph, on va le commencer comme ça, il va arriver là. On écrit Aleph comme ça, puisque on met la marque de la limite, puisque l'écriture va de droite à gauche théoriquement, mais il faut pas que ça aille trop loin. Donc on va mettre la limite de la lettre elle-même. On va la limiter, aller à gauche. Donc je vais quand je forme la lettre, je vais de la gauche vers la droite. Chaque lettre est écrite de la gauche vers la droite. Quand je lis, alors c'est-à-dire quoi je lis? Je lis chaque lettre qui s'inscrit dans un mot et chaque mot qui s'inscrit dans une phrase, à ce moment-là que je lis de droite à gauche. Donc il y a une différence entre l'écriture de chaque lettre et la lecture du texte. Alors, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? La droite, c'est la bonté, et la gauche, c'est la rigueur. Donc, quand on lit, on pousse, on fait en sorte que se développe la bonté, et qu'elle aille, et qu'elle repousse, si on veut, la rigueur. Tandis que quand on écrit chaque lettre, c'est exactement l'inverse qui se forme, qui se fait. C'est que la lettre, elle va de la gauche à la droite. Donc, c'est comme si qu'elle prend de l'ampleur, c'est que la rigueur se développe et repousse la bonté. Pourquoi? Parce que ça dépend. Est-ce qu'on est l'individu, il est tout seul? C'est moi qui suis important. Donc c'est le concept de l'enfant, la conscience réduite. Donc c'est la notion de rigueur. Ou bien l'homme, il s'inscrit dans le groupe. Alors s'il s'inscrit dans le groupe, quand on lit de droite à gauche et non pas de gauche à droite. La différence entre la lettre tout seul et la lettre dans le mot et le mot dans la phrase. C'est exactement le même concept que l'enfant et l'adulte. Donc on doit être adulte. Ça veut dire quoi être adulte? Prendre du recul. Ne dépasser les désirs, les ambitions personnelles pour se mettre au service du système que HaKadosh Baruch Hu, il a établi. Donc l'homme, il est là au service de Dieu. S'il a cette conscience-là, alors il peut, au fur et à mesure des jours, faire en sorte que les jours qui sont la vie... on va essayer d'expliquer aussi cette notion-là. Au fur et à mesure des jours, qui sont les jours de sa vie, 50 jours en question, de les inscrire dans quelque chose. Alors voilà, on va essayer d'expliquer. Je vais prendre l'exemple du kiddush. On fait kiddush vendredi soir. Qu'est-ce que ça veut dire faire kiddush? Alors, la Torah l'a dit, « Zachor et tayom azeh, souviens-toi de Shabbat pour le sanctifier. » Alors, à l'entrée de Shabbat, il faut mentionner la sainteté de Shabbat. Oui, mais Shabbat, il est saint tout seul, il n'a pas besoin de moi. C'est-à-dire que le jour de Shabbat a une sainteté propre, et moi, je dois le souligner, le déclarer. Alors, en vérité, à quoi ça consiste? En vérité, ça consiste à... Il y a deux niveaux de temps. Il y a le temps universel, celui qui appartient à Hachem, et le temps qui appartient à chacun. Chacun a un temps de vie. Donc les jours qui passent, c'est les jours qui vous appartiennent. Alors le Shabbat arrive, c'est mon jour, c'est un temps qui m'appartient, qui est dans ma possession, c'est le temps de ma vie. Est-ce que ce temps-là, je vais l'inscrire dans le temps qui est le Shabbat de HaKadosh Baruch Hu? Je vais l'introduire, je vais l'inscrire dans le temps que HaKadosh Baruch Hu a déclaré ou a fait de ce Shabbat-là. Et c'est le même Shabbat que le premier Shabbat de la création. C'est ça le Kiddush. Kiddush, c'est une déclaration qui fait que le temps qui m'est imparti, ce temps, le segment de temps qui m'appartient, qui est de 24 heures, je déclare l'inscrire dans ce que HaKadosh Baruch Hu a défini comme étant le Shabbat. C'est ça le sens du kiddush. La même chose les jours qu'on compte dans le Homer. Le Homer, il va de Pessah à Shavuot. Ce temps-là, il est inscrit dans le projet divin. Donc c'est un temps qui permet l'élévation, le travail pour atteindre Shavuot. Et chaque jour a une particularité. En comptant le Homer, celui qui compte, il dit, voilà, le temps, tel jour qui est un segment de temps qui m'appartient, ce segment de temps qui m'appartient, qui correspond au 15e, au 16e, au 17e jour, peu importe, je l'inscris dans le compte général de Akadosh Baruch Hu, dans ce temps général qu'Akadosh Baruch Hu a qualifié comme étant le temps du Homer. C'est-à-dire, j'inscris mon temps, j'inscris mon segment de temps dans celui de Akadosh Baruch Hu. C'est un concept de se fondre dans le système de Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, donc on sait ça, c'est ça que ça veut dire quand on dit qu'on va s'imprégner de la sainteté. Quand on dit on va s'imprégner de la sainteté de Shabbat. Et parce que je m'inscris dans le système qui est saint. Et je compte leur mère, donc Chesed, etc. Donc je m'inscris. Quand je m'inscris, automatiquement je suis partie intégrante de ce système-là. J'en prends les énergies. J'emmagasine les énergies qui jaillissent de cet élément-là. Donc on voit qu'il y a deux choses. Il y a ce concept-là qui est Mohin de Katnout, c'est un élément limité. Mais cet élément limité-là, il ne faut pas le laisser dans sa limite, dans sa réduction. Il faut lui donner une ampleur. Donc il faut l'inscrire dans les semaines. Et les semaines doivent s'inscrire dans le système des 7 semaines, etc. Donc donner une dimension on est tout petit, mais on a une ambition de grandir et de comprendre les choses avec la hauteur. Et pas seulement une hauteur d'une semaine, mais de 7 semaines. Prendre la hauteur. C'est ça le concept de devenir adulte. Il faut devenir adulte. Donc c'est prendre la hauteur et comprendre le monde dans sa complexité, dans sa diversité, dans comment Akadosh Baruch Hu il gère ce monde-là, à travers les différentes midot. C'est ça pour arriver à atteindre la Torah. La Torah c'est complexe, c'est pas juste un petit texte, c'est très difficile. C'est pas humain. Alors c'est pas quelque chose qui convient à l'homme. C'est quelque chose qui n'est pas de la nature humaine. La Torah, c'est quelque chose d'une autre dimension. Donc l'homme doit essayer d'atteindre ce niveau-là. Mais donc quand on réduit le système, alors la sanction arrive. Alors, on va passer aux élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, il disait, l'enseignement classique de Rabbi Akiva, « Zeklal gadol patora », c'est un principe fondamental, « Ve'avta l'ereacha kamocha ». Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ouais, c'est très difficile, ça. C'est pas très difficile, mais c'est un klal, c'est un principe, c'est une généralité. Ça veut dire que, c'est comment on déduit une généralité? Ça veut dire qu'on a 1000 exemples, alors dans chaque exemple, je vais retrouver ce principe. Donc ça se retrouve dans tous les exemples. Alors j'ai dit, j'en fais un principe, puisque je retrouve ça dans chacun. Il y a ici 50 personnes. Alors, dans chacune des personnes présentes, il y a cet élément-là. Donc, j'en tire un principe qui englobe tout le monde. Donc, c'est ça. Alors, il a dit, Zeklal Gadol Batora, c'est un principe général de toute la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, mais c'est un principe. Alors, en français, on va dire un principe, c'est une théorie. Et cette théorie-là, il faut l'appliquer, la mettre en application. Comment on met ça en application? Comment on peut mettre ça en application? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est impossible. C'est une illusion. C'est très difficile. Comment? Et c'est ça le travail. C'est ça le travail. Comment? Oui, d'accord, mais c'est pas que le rabbi, c'est tout le monde. C'est la Torah qui dit « tu aimeras ton prochain ». C'est la Torah qui a dit. C'est un pasouk de la Torah. C'est-à-dire, en plus, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a réinventé, il a pris un pasouk de la Torah, un demi-verset de la Torah, il en a fait une formule. Alors, comment ça marche? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, il y a marqué, ils ont manqué de respect les uns aux autres. Alors c'est étonnant, ça aussi c'est étonnant, comment le rabbi il explique quelque chose et ils font le contraire.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré l'autre
Ils n'ont pas fait kavod. Ils n'ont pas fait kavod. Comment on peut respecter les autres?
En les écoutant leur place.
Hein?
En leur faisant leur place.
On leur fait leur place. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Comment? Oui.
On les
écoute, d'accord. En les aimant. Mais comment? Mais pour arriver à ça, il faut s'aimer soi-même. C'est quelqu'un, il ne peut aimer l'autre que s'il s'aime lui-même. D'accord, donc, hein? Mais c'est vrai. J'entends pas. Oui, c'est vrai, ça aussi. Très bien. Pourquoi c'est d'Afka les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, 24 000, et pas les élèves de quelqu'un d'autre ou un autre moment dans l'histoire? Pourquoi d'Afka là? Qu'est-ce qu'il y avait? Et à quel moment ça s'est passé exactement? Donc dans la Gemara, c'est marqué, dans la Gemara, dans Ibamot, elle dit que, donc ils ne sont pas, le Nagou Kavot Zelazé, ils n'ont pas été respectueux les uns des autres. Dans le Midrash, c'est marqué avec un peu, une petite nuance, mais c'est dans le même sens. Maintenant, il y a un des Gaonim, après la période talmudique, il y a eu, donc le Talmud, il a été, l'écriture de codifier, la codification du Talmud, elle s'est passée en 425, je ne sais pas exactement, ça s'est fini. Et donc, et après cela, on a eu la génération des Saboraïm, les rabbins qui étaient proches des Ramoraïm qui ont commenté, expliqué le Talmud, c'était incompréhensible pour le commun des individus. Donc ils ont commenté, et après ils sont venus les Gaonim. Il y a eu une période environ jusqu'en l'an 1000, donc de 400 ans, 450 ans, 500 ans à peu près, de Gaonim. Donc il y a beaucoup de Gaonim. Un des derniers Gaonim s'appelle Rabbi Shiriria Gaon. Lui, il écrit, lui, il fait, il retrace. Donc les Juifs étaient déjà dispersés aux quatre coins de la Terre. Il y avait des Juifs en Europe, en Espagne, en France et ailleurs, d'accord, en Afrique du Nord, etc. Donc les gens qui avaient des difficultés à comprendre, ils envoyaient aux Yeshivot de Babel, ils étaient en Babylonie, donc ils leur envoyaient des questions et les Géonim répondaient. C'est eux qui détenaient le savoir. Donc il a écrit, quelqu'un lui a demandé comment la transmission de la Torah s'est passée. C'est quoi les règles de la transmission? Donc il fait tout un développement, il fait l'historique. Il y a une lettre, une fameuse lettre qui est de Rabbi Shrira Gaon. Il fait il développe le concept de la transmission. Quelles sont les générations des rabbins, etc. Comment ça s'est transmis? Entre autres, au milieu de ce truc-là, il parle de Rabbi Akiva. Et il dit là-bas une phrase que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Exactement, ils sont morts à la guerre. Ils sont morts. Ils sont pas morts de comme on croit. Ils sont morts. Ils sont morts à la guerre. Ils sont morts à la guerre. Il y avait une guerre. Donc, c'est qui les élèves? Non, pas entre eux. Ils sont morts. Ils ont été tués. Il dit pas à la guerre, mais il dit ils ont été tués au combat. Un terme comme ça. Ouais, c'est-à-dire quoi en vérité? Les élèves de Rabbi Akiva, c'était les soldats de Bar Korba. À l'époque de Bar Korba, après la destruction des temples, il y a la Gemara raconte qu'il y avait un juif qui a réuni une armée et qui a lutté contre les Romains, il les a chassés et il a rétabli le royaume juif pendant 3 ou 4 ans, il a frappé de la monnaie, etc. Et il était considéré comme étant le roi. Et majoritairement, les rabbins du Talmud, ils pensaient, les chachamim pensaient que c'était un Mashiach. Ils pensaient, Rabbi Akiva, en tout cas, lui, il était certain que c'était le Mashiach, il lui portait ses armes. Donc il était l'écuyer, par exemple, il lui portait ses armes. Et c'est lui, Rabbi Akiva, qui a encouragé la révolte. Lui, Rabbi Akiva, il est parti, il a encouragé donc les élèves, etc., de participer à la révolte. Pourquoi? Parce que grâce à cette révolte, on va rétablir la souveraineté juive. On pensait que... Bon, après, ça ne s'est pas réalisé comme ça. Les élèves, pendant la guerre, les Romains sont venus attaquer, ils ont tué tout le monde. Ils ont gagné la guerre et ils ont tué tout le monde. Comme ça, lui, enfin, c'est ce qui ressort de cette lettre. Et on comprend maintenant pourquoi ils en ont fait un deuil. Pourquoi c'est devenu une raison du deuil. Parce que tout l'espoir, nous sommes à une période où le temple est détruit depuis environ un siècle, et à peu près, un peu moins qu'un siècle. Rabbi Akiva, il est mort en 135, donc c'est à peu près, on est 50 ans, après 50 ans de la destruction du temple, il y a eu cette révolte, et tout le monde pensait que c'était le Mashiach, c'est-à-dire que la Géoula était proche, c'était là. C'est la raison, je ne sais pas, vous avez remarqué que dans la Haggadah, on parle de ça.
Oui.
On parle de ça. Les rabbins se sont réunis chez Rabbi Akiva. Pourquoi les rabbins? On dit il y avait 5 rachamim qui se sont réunis en cachette dans la maison de Rabbi Akiva, à Bnei Brak. Il y avait Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Eliezer, Rabbi Elazar Ben Azara, et enfin les Rabbi Akiva. D'accord? C'est quoi cette histoire-là? Ils étaient à Bnei Brak. Bnei Brak, c'est la ville de Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'ici, vous avez le pouvoir. Rabbi Elazar Ben Azaria, c'est l'exilac, c'est le pouvoir politique. Rabbi Eliezer, c'est l'école de Beit Shammai. Rabbi Yoshua, c'est l'école de Beit Hillel. Rabbi Tarfon, c'est le pouvoir de l'argent, il était très riche. Et Rabbi Akiva, donc qu'est-ce qu'ils sont venus tous? Et Rabbi Akiva, c'était l'élève de ces gens-là. Rabbi Akiva était l'élève de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, c'est ses élèves. Donc comment les maîtres, ils viennent chez l'élève? Et il y a beaucoup qui soulignent qu'en général, ces gens-là ne sortaient pas de leur ville. Ils ne quittaient pas. Et en plus, ils habitaient loin. Chacun habitait dans une ville relativement loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que ce soir-là, ils sont venus faire Pessah avec Rabbi Akiva pour lui donner le flambeau. C'est-à-dire, c'est lui, c'est son avis qui va être prédominant, qui va ils lui ont donné le OK pour aller de l'avant. Et après ça, on remarque que ça s'est mal passé. Parce que, bon, Marc Orba lui-même, il n'était pas... La Gemara dit qu'il s'est mal...
Ce n'est pas qu'il s'est mal comporté,
c'est qu'il a parlé mal. Il dit, on n'a pas besoin que Dieu nous aide, nous, on sait se débrouiller avec nos ennemis tout seul. Bon. Et bon, donc ça a été décevant. Barcos Ivan, on l'appelle le fils du mensonge, donc parce qu'on a été... On a été déçus. Et après cela... Il y a eu la destruction de la ville de Bétar, donc la fameuse ville de Bétar, où les Romains, ils ont massacré tout le monde et ils ont laissé les corps 7 ans sans sépulture. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? On entassait les morts et on faisait des barrières pour séparer les champs. Et la Gemara a dit qu'au bout de 7 ans, Rabban Gamliel a dépensé la moitié de sa fortune pour soudoyer les Romains, pour qu'ils permettent, qu'ils autorisent d'enterrer les morts. Il a dépensé énormément d'argent, de sa fortune personnelle. Et au bout de 7 ans, ils ont dit d'accord. Et alors là, c'est pour ça qu'on a fixé la 4e bracha du Berkat Hamazon à Tov Vehametiv. Et on remarque que... Alors, ce qu'elle est... Et juste après, dans le Berkat Hamazon, il finit. Berkat Hamazon, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melechan La'ada Elavinu Malkeinu Adirinu A Tov Vehametiv Lakosh Bechol Yom. Où est-il venu? L'affaire est réglée. Pourquoi on ajoute après Rahaman une liste entière de Rahaman? C'est en plus, ça ne fait pas partie du Birkat Hamazon, c'est rajouté. Des prières en plus, on demande, on supplie, on implore la miséricorde. Que Dieu y reconstruise le temple, qu'il nous donne la Parnassa, qu'on ait la santé, etc., la prospérité. Pourquoi? Il dit parce que cette bracha-là, elle est instituée après. C'est-à-dire là, à ce moment-là, on sait que l'exil, il va durer. Là, les juifs, là, les rabbins, ils savent, de manière certaine, ils ont compris que là, l'affaire, elle est très longue. Et on n'en est pas sorti. On n'est pas sorti. Donc, jusqu'à présent, on pouvait penser que c'était proche, qu'il pouvait y avoir des événements qui... Mais là, on est parti pour au moins 1000 ans. Alors, ils savent qu'on est parti en exil pour 1000 ans. Donc il dit que les juifs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces juifs-là? Comment ils vont pouvoir vivre? Quels moyens de subsistance qu'ils vont avoir? Quelle prospérité ils vont avoir? Quelle réussite ils vont avoir? Comment ils vont pouvoir se maintenir, etc. Donc on commence à implorer juste après, dans le Birkat Hamazon, la miséricorde de la Kadosh Baruch Hu, il octroie à chacun la force d'aller de l'avant, etc., de se maintenir. C'est ça le sens. Et le deuil qui est ici un deuil national, on ne coupe pas les cheveux, etc., on ne se marie pas, à cause de ça. C'est-à-dire on a perdu là tout espoir de retrouver une souveraineté nationale. Et c'est ça le lien qu'il y a, que cette période-là, elle se passe. Donc les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts entre Pessah et Shavuot. C'est justement parce que c'est là où la souveraineté nationale a été retrouvée. Am Israël est sorti d'Égypte et est devenu une nation à part entière, libre. Et là, le deuil, c'est qu'ils ont perdu cette liberté. Donc il y a quelque chose qui se greffe, qui est lié à Pessah. C'est, en vérité, c'est... C'est un retour de bâton, en vérité.
Comment ça se fait que des grands rabbins comme ça, tels qu'ils étaient, ils ont pensé que c'était Mashiach?
Les rabbins, ce ne sont que des hommes. Les plus grands rabbins.
Ils avaient la même voix, quand même.
Je ne sais pas, Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il est un grand rabbin, mais les rabbins, ce ne sont que des hommes. Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Rabbi Akiva, il s'est trompé. Il y a plein qui peuvent se tromper. C'est l'erreur est humaine. Ça veut dire que personne, je ne vois pas en quoi c'est étonnant que des hommes se trompent. Et en plus, quand on dit qu'ils se sont trompés eux-mêmes, mais à la fin, c'est Agmara qui dit qu'ils se sont trompés, mais le fait de se tromper, ça les réduit pas à leur grandeur. Les prophètes et des prophètes qui se sont trompés. Ils ont fait des erreurs. On a vu Parasha de la semaine, Nadav et Abihu, ils se sont trompés. Ils ont fait une erreur. Il n'y a que dans notre génération, on croit que le rabbin, il ne se trompe jamais. Non, le Seigneur leur dit, c'est impossible qu'il se trompe. C'est pas vrai, il peut être sadique, il peut se tromper. C'est l'erreur est humaine. On ne peut pas... Il peut se tromper dans la halakha, il peut se tromper dans son jugement, il peut se tromper. Il faut prier Dieu qu'on ne se trompe pas. Mais et à partir du moment où Rabbi Akiva, il fait un choix de diriger le peuple, alors là, c'est là où l'erreur, elle est encore plus risquée. Donc lui, il ne s'est pas trompé sur quelque chose qui est de sa vie privée. Il s'est trompé sur quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a insuffler un espoir qui n'a pas donné satisfaction. La Gemara dit que Rabbi Akiva et les Chachamim, ils étaient sur la montagne du temple et ils ont vu un renard sortir dans l'endroit où il y avait le temple. Alors tous les rabbins, ils ont commencé à se lamenter et dire l'endroit de la splendeur d'Israël, les renards, etc. Et ils ont pleuré. Et Rabbi Akiva, il a souri. On dit quoi? Tu souris, tu vois un renard sortir du Kodesh à Kodashim et tu souris. Et on dit, si maintenant le renard est sorti de là, ça veut dire qu'on va reconstruire. C'est-à-dire, si cette prophétie-là s'est réalisée, la mauvaise prophétie s'est réalisée, à présent, il y a une nouvelle prophétie qui peut se réaliser, c'est la délivrance. Donc on voit que Rabbi Akiva, il est dans cette optique de positive, de voir les choses positives et d'aller vers le messianisme, en fait. Hein? C'est le messianisme. Il est dans le messianisme. Il se projette dans le futur. Et ça peut, on peut se tromper. Dans ça, on peut se tromper. On peut se tromper dans ça. C'est évident qu'on peut se tromper.
Et les maîtres d'avoir donné le flambeau à l'élève.
Le flambeau, c'est-à-dire qu'ils ont. Ils sont pas. Non, de donner le flambeau à Rabbi Akiva, ils ne sont pas trompés. Ils ne sont pas trompés. Parce que toute la Torah qu'on possède. La Gemara dit quelque part que toute la Torah qu'on possède, qui nous est parvenue, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Et la Mishnah, c'est Rabbi Meir, selon l'enseignement, qui est lui-même l'élève de Rabbi, donc selon l'enseignement de Rabbi Akiva. Le Sifri, donc il y a plusieurs livres c'est tel qui a écrit selon l'enseignement de Rabbi Akiva. Alors la Gemara, là-bas, elle cite 5, et dans le Midrash, il y a marqué 6 livres de la transmission orale, qui sont tous selon l'enseignement de Rabbi Akiva. Donc toute la Torah orale que nous avons récupérée, qui nous est arrivée, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la Torah qui est projetée vers le messianisme, vers l'espoir. C'est la Torah qui permet, c'est cette Torah-là, avec cette vision positive du monde, de pouvoir traverser l'exil. Si on est dans un exil où il n'y a pas d'ouverture, alors là, c'est foutu. Alors, c'est fini. Il n'y a aucune ouverture positive. C'est invivable. Donc, si l'homme n'a pas d'espérance, il peut pas se lever le matin. D'accord. Donc, il peut pas traverser les épreuves. Donc, c'est Rabbi Akiva. C'est ce concept-là. De Torah, une Torah d'espoir, une Torah de rédemption. Il se projette dans la rédemption. Et c'est ça le lien qu'il y a, parce que c'est ça le lien qu'il y a avec Shavuot. On va remarquer. Par exemple, on fait, il y a à partir de. Il y a, à partir de la quatrième semaine, nous rentrons dans la cinquième semaine. C'est que la cinquième semaine commence avec Rabbi Meir. C'est la Hiloula de Rabbi Meir. Et après cinq jours, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, le deuil s'arrête. Le deuil s'arrête, on peut couper les cheveux, etc. Alors, c'est quel lien, ça, hein? Comment ça marche? Et en vérité, c'est L'essentiel de la rigueur, ces cinq éléments de rigueur. Je vous ai expliqué. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron. Yosef, le sixième, il n'a pas d'énergie propre. Alors, on explique ça dans Sukkot. Il y a le corps humain, le corps de l'homme. Expliquer un peu des trucs qu'il ne faut pas vous... Dans le corps humain, il y a des énergies au niveau du corps. Donc, on a trois éléments intellectuels qui sont Chochma, Bina, Da'at. C'est le savoir, la leçon du maître, c'est la Chochma. Bina, c'est ce que l'élève il va ajouter, il va comprendre, il va déduire. Et Da'at, c'est le cerveau, c'est savoir mettre en application. Ça, c'est au niveau intellectuel. Maintenant, au niveau du corps, nous avons dit qu'il y a sept éléments qui se rejoignent dans les membres du corps. Le bras droit, c'est Abraham. Le bras gauche, c'est Yitzhak. Le buste, c'est Yaakov. Les deux jambes, c'est Moshe et Aaron. Et il y a le sexe. Le sexe de l'homme, c'est Yosef. Maintenant, la couronne, le gland, c'est Atéret Ayesod, ça fait référence à David. Maintenant, il n'y a que cinq organes qui ont une énergie propre. Donc, vous pouvez bouger le bras droit, le bras gauche, le buste, la jambe droite, la jambe. Mais l'organe sexuel, il n'a pas d'énergie propre. Quand l'homme ou la femme, l'homme en l'occurrence ici, se met en érection, alors c'est pas le membre qui se met en érection, c'est le corps entier qui agit. Donc et c'est sur ça qu'on dit, la Gemara dit que quand le passou qui mentionne que Adam il a connu sa femme, c'est-à-dire quoi connu? Alors on parle gentiment, on fait propre, on dit il a eu un rapport avec elle, on va pas dire ça se fait pas dire il a eu un rapport, on va dire vayeda Adam et Havaïcho. C'est-à-dire quoi vayeda? C'est juste pour dire on est pudique. Dit non, il dit parce que le sens de la relation physique, elle est liée au da'at. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a El Kishou et le da'at, pour qu'il y ait érection, désir, etc., c'est au niveau du cerveau que ça marche. Donc c'est en vérité, quand cette action-là se réalise, c'est le corps entier qui est en action. D'accord? Ça, c'est le sens profond de l'oulav qu'on fait à Sukkot. Alors Yosef, il n'a pas d'énergie propre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est quoi? C'est les énergies de tout le système qui est en haut, que lui, il va canaliser, dans l'image de la relation entre l'homme et sa femme. C'est que lui, il va transmettre les énergies au Malchut, qui est la femme. Donc c'est la femme, elle remplace ici David Ameler. Mais il n'a pas d'énergie propre. C'est les énergies du haut. Lui, il ne fait que canaliser. Donc on voit que l'essentiel des énergies réductrices, elles sont au niveau de 5. Et à partir du moment où elles sont passées, ces énergies-là, on sort du concept de réduction totale et de rigueur. Et on va passer, et le deuil va s'arrêter à ce moment-là. Donc on va remarquer que c'est la cinquième semaine et le cinquième jour de la cinquième semaine que la réduction est passée et qu'on va passer, on va dépasser cette notion de réduction, on va grandir. On est déjà, l'Agma a dit, déjà on est pour les frosses Shavuot, on est proche de Shavuot. C'est comme si que le Homer il est coupé, on est là proche de Shavuot. C'est-à-dire qu'on a acquis le concept d'adulte, de grandeur intellectuelle de l'adulte. On est derrière nous, on a grandi. On était de l'âge enfant, on est passé à adulte à partir de cette semaine-là. Et on remarque quoi? Que Rabbi Meir, il est un des 5 élèves que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti, il a pris 5 élèves. Qui était le premier élève? C'est Rabbi Meir. Rabbi Yossé, etc. Et il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, la Gemara dit que quand il plaçait les élèves, alors il plaçait en tête Rabbi Meir. Alors Rabbi Shimon, il a vu que Rabbi Shimon, il a fait un peu la tête, il n'était pas très content. Et il lui a dit, c'est pas grave, je place d'abord Rabbi Meir, mais Dieu et moi, on sait, moi et Dieu, on sait que ta valeur. On sait ce que tu vaux. Et donc le cinquième jour, c'est... Okay, qu'est-ce qui est la particularité de Rabbi Shimon? C'est que Rabbi Shimon, il dit, la Gemara dans Gittin, elle dit, que Rabbi Shimon, il a dit à ses élèves, il dit, « Limdout midotai, apprenez mes qualités. » Parce que mes qualités sont un peu des qualités de Rabbi Akiva. En vérité, on devrait faire la Hiloula de Rabbi Akiva, pas la Hiloula de Rabbi Shimon. Mais on fait la Hiloula de Rabbi Shimon parce que lui, il est un petit Rabbi Akiva. C'est le jour de la Hiloula de l'Akbar Omer, c'est quoi? C'est le jour où la Torah orale est transmise. C'est le jour de la transmission de la Torah orale. C'est ça le concept même de... On ne peut pas faire la Hiloula de Rabbi Akiva, il a été tué, assassiné à Kippour. Donc on ne peut pas faire. Donc on va faire... On va lier dans ce concept-là des jours qui se, de, du Homer, le personnage Rabbi Akiva se retrouve dans le personnage Rabbi Shimon Ben Yochai. C'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Et l'essentiel de la Torah orale, vous remarquez que dans la semaine... Le jour de l'Akba Omer, il tombe le même jour que Pourim. Le même jour de la semaine que Pourim. Parce que Pourim, les Juifs, ils ont accepté la Torah orale de leur propre gré. Et le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où la Torah orale est transmise. À travers le personnage Rabbi Akiva, qui est ici un peu remplacé par Rabbi Shimon. Mais c'est Rabbi Akiva, en fait. Et cette Torah-là, c'est la Torah de l'espoir, etc. Alors, pourquoi ça s'est arrêté? Il y a des rabbins qui demandent, ils disent, c'est quoi cette histoire-là? Le deuil s'arrête à l'Akba Omer parce que les élèves, ils sont plus morts. L'épidémie s'est arrêtée. Ils disent, c'est vraiment... Comment?
J'ai dit l'épidémie des garçons, qu'on fait la fête des garçons. Mais vraiment, ils sont morts.
Ils sont tous morts.
Par une épidémie.
Ils sont morts par une épidémie. Ils sont morts. Imaginons, ils sont morts par une épidémie ou la guerre. Ils sont tous morts. Alors, ils sont morts en combien de temps? En un mois, ils sont morts. En 33 jours. D'accord. Le 33e jour, il n'y avait plus. Ils étaient tous morts. Donc, l'épidémie s'est arrêtée. Ils disent, l'épidémie s'est arrêtée. Et puis, ils étaient tous morts. En quoi c'est un jour où on peut se réjouir? Ils sont tous morts. Si, il n'y avait pas. Tous n'étaient pas morts. On comprend. Alors, il y a des rabbins qui disent qu'en fait, c'est pas lié à ça. C'est lié le jour de l'Akba Omer. Ça tombe le jour où la manne, elle est tombée dans le désert. C'est-à-dire quand ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan, ils ont emporté des provisions avec eux. Ces provisions-là, ils les ont mangées pendant un mois. Et après, pendant 3 jours, ils n'avaient rien à manger. Et le 3e jour, la manne est tombée. Donc le jour où la manne est tombée, c'est le jour de l'Akba Omer, qui tombe toujours le 18 Iyar. Donc il y a ici un lien entre le fait que HaKadosh Baruch Hu a donné la manne, et la manne, ça permet de... C'est un aliment. de pureté. C'est quelque chose qui permet, qui a permis au Bnei Israël de se préparer de manière certaine à recevoir la Torah. Ils sont purifiés intellectuellement.
Des anges, en vrai.
Oui, ils ont mangé quelque chose qui a purifié leur être, d'accord, leur compréhension intellectuelle, etc. Donc ils se sont purifiés, ils se sont mis. Ça leur permettait de devenir aptes à recevoir la Torah. Et c'est exactement ça. Donc la manne, c'est quelque chose de l'echem abirim achalish. Donc c'est le pain des anges que les hommes ont mangé. Donc ça veut dire que tout. Comment ? Oui, plus qu'un mikvé. C'est-à-dire le mikvé, il purifie de dehors. Et c'est une purification extérieure. Tandis que là, c'est une purification intérieure. C'est-à-dire que l'individu. C'est beaucoup plus, c'est-à-dire que l'être humain, il se détache, il n'a plus d'attachement à la matérialité. Il n'y a pas le besoin, c'est-à-dire que c'est l'âme qui l'élève, c'est-à-dire que c'est comme si que le corps est prisonnier de son âme, est prisonnier de l'âme. Donc c'est l'âme qui dirige. Alors que chez nous, c'est l'âme est prisonnière du corps. Elle est soumise aux volontés, aux besoins du corps. Alors eux, ils ont réussi par la main à se purifier à ce niveau-là. Donc ils ont pu recevoir. Et ça ressemble à Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est sauvé dans la grotte et qui là, il s'est détaché la grotte qui est comme un retour dans la matrice. C'est-à-dire que c'est la grotte, c'est fait allusion à la matrice. L'homme, il retourne à l'état embryonnaire, il se retrouve à l'intérieur, dans l'embryon, dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Donc il est là, enfermé, préservé, protégé, et l'ange, il lui apprend la Torah. Donc c'est exactement le même, c'est ce qui s'est passé aussi pour Moshe. Donc c'est un retour au niveau de spirituel complet. Ça, c'est Rabbi Shimon. Et après, là, nous sommes proches de Shavuot. Et Shavuot, c'est la matrice aussi. Shavuot, c'est le concept d'atteindre les niveaux les plus hauts de la compréhension. Donc ça, c'est le... Donc on a essayé de lier le concept de libération, de compréhension à la sortie d'Égypte. On a une certaine compréhension. On a une hauteur de vue, on prend du recul, on voit la manière que Akash Bokhu il a de gérer le monde. On essaie de trouver dans chaque élément comment Akash Bokhu se dévoile dans son monde, à travers chaque élément de la. Chaque chose, chaque élément de la création. On essaie de voir, on essaie de percer à jour. Ça, c'est ça la chokhma. Vraiment, c'est arriver à prendre la hauteur, c'est arriver à comprendre en profondeur les choses. C'est l'honneur de la Torah. La Torah, c'est une compréhension profonde qu'il faut avoir. C'est-à-dire, il faut s'interroger, essayer de percer. C'est pas les coutumes, les us et coutumes, les actes du quotidien ont un sens extrêmement profond. Il faut arriver à percer ça. Il faut pas se contenter d'être superficiel dans notre compréhension de la Torah. Parce que si on se contente d'être superficiel, alors on n'honore pas la Torah. La Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on dit, bon, je ne comprends pas grand-chose, mais bon, il faut faire ça, on fait ça, mais en vérité, a priori, ça n'a pas de sens. Alors comment tu fais quelque chose qui, a priori, n'a pas de sens? Alors il faut essayer de percer, ouais. À jour, le sens profond, si la Torah, elle est vraie, si c'est Akash Baruch Hu qui a donné la Torah, donc il y a un sens aux choses, donc où il est le sens, il faut arriver à le percer. Alors il faut méditer, il faut réfléchir, il faut rechercher, si on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse, donc il faut se questionner, s'interroger, être tout le temps en recherche de dévoiler cette lumière qui est contenue.
C'est arrêté à la cinquième semaine, puisqu'on a acquis... Le date, on a leur compréhension, et là,
avec la compréhension, on s'approche de Shavuot, on est proche de Shavuot. Les énergies, elles sont proches de se dévoiler. C'est-à-dire, celui qui a maîtrisé les énergies réductrices, et il les a emmagasinées, donc dans le Yesod, c'est la Mida de Yosef, il est en train de les conjuguer. À partir de là, si il arrive à les conjuguer, alors il arrive à avoir cette connaissance, cette compréhension. Il peut sentir une fenêtre qui s'ouvre sur l'horizon qui va s'illuminer. Mais il faut déjà maîtriser. Et ça, ça permet la connaissance de soi. C'est-à-dire se comprendre, comprendre son être, avoir conscience de soi-même, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les autres, quelle relation on a vis-à-vis des autres, quel est mon rôle, qu'est-ce que je fais dans ce système-là, comment je peux me rendre utile dans ce système-là. Alors après, on peut avoir une vision globale du système, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, où Akadosh Baruch Hu se situe. Mais si on est tout le temps dans la réduction, alors on n'a pas une vision, on a une vision réduite. C'est, encore une fois, c'est réduire les choses. Alors, je voulais dire, pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils ont, entre guillemets, trahi l'enseignement de leur maître? C'est ça ce que j'ai dit au début. Je dis, comment on peut respecter l'autre? C'est en se respectant soi-même. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, eux, ils étaient tellement modestes. Je vous expliquais en fait. En fait, bon, il y a un lien ici. Rabbi Akiva, qui est Rabbi Akiva? Qui c'est Rabbi Akiva? À part le fait qu'il soit un grand maître. Oui, lui-même n'est pas converti. Il est d'origine. Son père ou son grand-père sont convertis. Mais qui est-il? Alors, il y a ici une relation entre ce qui va se passer à la fin de la paracha de Balak. Il y a une relation avec ce qui va se passer. Il y a marqué que les Bnei Israël, Balak, il est venu pour... Bilam, il est venu... Balak, il est parti chercher Bilam. Il a dit, tu vas maudire Israël. Donc, il a essayé, il n'a pas réussi à maudire. Alors, à la fin, il le dit, je te donne un bon conseil. Il dit, tu leur envoies les filles de Midian, ils vont fauter et il va y avoir une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, il y a eu la faute, ils ont fauté. La tribu de Shimon, entre autres, elle a fauté avec les filles de Midian. Et Zimri ben Salou, et il a pris Cosby Batsour, et il l'a amené devant Moshe. Il dit, celle-là, elle est permise. Il lui a dit, elle n'est pas permise. Et toi qui t'as permis la fille de Yitro, etc. Donc, il a marqué, il est rentré dans la tente, il a eu un rapport avec elle, et tout le monde savait ce qui se passait. Non, mais non, c'est quoi cette histoire-là? De qui on parle là-bas? Là-bas, il s'appelle Sholomiel ben Tsuri Shaddai. Il a 252 ans, ce type-là. Ce bonhomme-là, il a 252 ans. C'est le fils de Dina. Marquez que Dina, elle a été violée par Shechem. D'accord, elle a été violée par Shechem. Et les frères, quand ils ont entendu ça, ils ont pris leur épée, ils ont tué tout le monde. Combien ils ont tué de gens là-bas? Combien de gens ils ont tué? Il y avait 24 000, ils ont tué. Et ils ont tué 24 000. Hein? Oui, les Golim. Donc ils ont tué 24 000 là-bas. Et quand ils ont tué tout le monde, Dina, elle dit, je ne sors pas de là. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que personne ne voudra se marier avec moi. Donc, c'est Shimon qui s'est marié avec elle. Alors, la fille qu'elle a eue, Asnat, il l'a envoyée chez Yosef. Et lui, avec elle, il a eu un enfant, qui c'est le prince de la tribu de Shimon, c'est Sholomiel ben Tsuri Shaddai. Et c'est ce bonhomme-là qui... Il y aura 24 000 qui mourront lors de cet épisode-là. Et Rabbi Akiva, c'est le Gilgul de Sholomiel ben Tsuri Shaddai. Et les 24 000 élèves, c'est la réparation de ces individus, de ces personnes-là. Les 24 000 de Shrem et les 24 000 qui sont morts dans le désert. Et aussi, il y a les femmes. Alors, Rabbi Akiva, il a eu 5 femmes. Vous savez que Rabbi Akiva, il a eu 5 femmes.
Ah non.
Oui. Il a eu des enfants, mais il a eu 5 femmes. Il s'est marié avec... Il avait Rahel, oui. La fille de Kalba Saboa. Il avait une femme avant. Après, il s'est marié avec la femme de Tournosropus. Elle a dit à son mari, la femme, la Gemara dans Negedarim, elle dit, je vais aller, parce que Tournosropus était consul. De Rome, alors il rencontrait Rabbi Akiva, il y avait tout le temps des discussions philosophiques. Alors, il n'était pas content, parce que Rabbi Akiva, il le battait. Dans la confrontation intellectuelle, il était plus fort que lui. Donc quand il rentrait à la maison, il faisait la tête. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, encore ce rabbin-là, il m'a ridiculisé. Alors il dit, laisse-moi faire, tu me permets d'aller le séduire et je le ferai tomber et tu pourras le vaincre. Parce que Dieu d'Israël, il n'aime pas les relations interdites, etc. Donc elle rentre au Beit HaMidrash et il y a Rebecca qui étudie avec les élèves et elle le séduit, je ne sais pas quoi, elle essaie de le draguer. Et rien ne se passe. Alors là-bas, l'Agma, elle dit que Rabbi Akiva, il a souri, il a craché, etc. Alors quand elle est partie, ils lui ont dit que c'est quoi ? Et il lui a dit, il n'a pas voulu le dire, mais là-bas, le Mfarchim dit que Rabbi Akiva, il a vu qu'il allait se marier avec elle. Et elle s'est convertie après, et il s'est marié avec elle, Mehmet. Et c'est une des manières par laquelle il est devenu riche. Rabbi Akiva était très riche, et grâce à... Donc qui est celle-là ? C'est Cosby. Cosby Batsour, la princesse de Midian. Donc tout ça, ça amène un certain tikkun. En vérité, c'est le Gilou, en vérité. Bon, il y a un livre de Rabbi Menachem Azarami Pano, il explique tous ces Gilgolim-là. Comment? Tout est lié, en vérité. Comment? On est tous des Gilgolim. On ne sait pas de quoi, mais bien sûr, on est des Gilgolim. Alors, l'une des raisons, maintenant je vais vous expliquer, une des raisons pour laquelle les élèves entre eux ne se respectaient pas, parce qu'ils savaient, les 24 000 qui sont morts, donc à Shrem et Bashitim, avec Midian, dans le désert, ils sont revenus 24 000 corbeaux à l'époque de Léonavi, et d'où on va dire, il y a marqué que le roi Ahav, Isabel, la femme du roi Ahav, Isabel, elle pourchassait les prophètes et les tuait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ovadia, qui était l'intendant général de la maison du roi? Il a pris les prophètes, il les a cachés dans des grottes. Donc, ils les ont cachés dans des grottes. Et un des moyens par lesquels ils se sont nourris, c'est qu'il y avait des Hachem, il envoyait des corbeaux, qui prenaient la nourriture dans la cuisine de Ahav et qui le ramenaient à manger. Donc il y avait 24 000 corbeaux. Alors le type, il regarde son copain d'études. Il dit, toi, je te vole, tu es un corbeau. Moi, je suis un corbeau. Toi aussi, tu es un... Il sait ce qu'il est. Il connaît son passé. Il connaît, enfin, les Gilgolim précédents. Donc il y avait une impossibilité totale d'avoir un vrai respect parce qu'on sait qui tu es. C'est-à-dire, quand vous respectez quelqu'un, vous respectez parce qu'il vous donne l'apparence d'être quelqu'un. Mais au fond, vous ne le connaissez pas. Au fond, vous ne connaissez pas si... Hein? Comment? Oui, parce que donc, c'est une apparence. Mais on ne sait pas comment lui-même il se tient dans sa vie privée, quand il est tout seul, comment il se comporte, etc. On n'en sait rien. Ça, c'est l'image qu'on renvoie. Alors les gens, ils s'habillent bien, ils mettent un déguisement, un grand rabbin, tzadik, tout ça. Mais on ne sait rien ce qu'il est. Alors lui, quand il est... Si le type, il est extra-lucide, il perce. Alors il voit, il ne peut pas le respecter. Donc ça, c'était... C'est la véritable essence de la personne, elle se dévoile. Donc c'est très difficile de respecter quelqu'un dans ce cas-là. D'accord ? Déjà, si on connaît une histoire sur un rabbin, on a entendu vaguement, déjà on est déçu, on ne peut plus... Truc, d'accord ? Alors imaginez qu'on met une caméra et on le filme. Alors, dans son intérieur, tout le monde, voilà ce grand sadique-là, entre guillemets, voilà comment il se comporte. Alors, les gens, ils ne pourront plus le respecter. D'accord ? C'est exactement ça. Ils savaient le fond de l'âme de chacun, ce qu'il était dans les Gilgolim précédents. Donc, ils ne pouvaient pas, l'ona agu kavod zelazé, parce que chacun savait sa faiblesse. Les 24 000 élèves. Ah, c'est ça le tikkun. Oui, les sommités, c'est sûr, les élèves de Rabbi Akiva, ils ne peuvent être que des sommités. Mais c'est ça le tikkun, c'est ça le...
Ils n'avaient pas cette forme de Torah, ils n'auraient...
Mais c'est, ils pourraient réparer à eux. C'est eux qui doivent se réparer. C'est eux, ils doivent arriver à réparation. Oui, mais c'est pas... Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est quand on a... C'est ça, c'est quand on a une vision émotionnelle des choses. Oui, parce qu'on a de la peine, etc. Mais quand on voit l'intérêt de la personne, comment? Oui, on doit. Mais ça, c'est l'intérêt national.
Non, Akash Bokhu, il a besoin de réparer. Chaque chose doit venir à réparation. Si vous saviez toutes les Gilgulim qu'il y a dans les Sfarim qui parlent des Gilgulim, celui-là, il y a un rabbin, par exemple, je ne sais pas quoi, lui aussi, on a voulu le Satan, il est venu, il a dit à Dieu, laisse-moi m'occuper de lui, tu vas voir. Le Satan, il s'est déguisé en super nana, super belle, il est venu le séduire. Lui, il n'en pouvait plus, il tourne les yeux, il a dit aux élèves, apportez-moi deux clous. Donc il a apporté deux clous, le truc, il s'est crevé les yeux, d'accord. Il dit, je peux pas, le Tzara est trop fort, il s'est crevé les yeux. Alors après, il est venu Léo, il lui a dit, Dieu, il a dit, je te guéris. Il dit, non, si je suis aveugle, laisse-moi tranquille, je suis bien comme ça. Et alors, la Rizal explique pourquoi il est, c'était quoi l'histoire? Pourquoi il a crevé les yeux? Il dit, ah, celui-là, c'est le Gilgul de Paltiel Ben Laï. Parce que quand David s'est marié avec Michal, c'est l'Aftara qu'on a lu, qu'on aurait dû lire hier. L'Aftara qu'on aurait dû lire Shabbat. Alors là-bas, il y a marqué que Shaoul, il a voulu poursuivre. Quand David, il a tué Goliath, il lui a dit, je donne ma fille. Il a dit, celui qui tue Goliath, je donne ma fille. Donc David, il s'est marié avec Michal. Mais après, l'affaire, elle s'est renversée, il s'est sauvé. Donc, Shaoul voulait tuer David, et le considérant qu'il n'était pas de la descendance d'Israël, il était Moabite, donc il ne pouvait pas se marier avec David. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa fille, il l'a mariée avec quelqu'un d'autre, Paltiel Ben Laïch. Et ce Paltiel Ben Laïch-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une épée entre lui et elle, il a dit que si je m'approche de toi, que je sois foudroyé par l'épée. Et quand David a récupéré son royaume, il a récupéré sa femme. D'accord. Mais en fin de compte, lui, ce Paltiel Ben Laïch, il a vécu dans l'intimité avec une femme qui était la femme d'un autre. D'accord. Donc il a vu déshabiller, il a vu quand elle était dénudée, etc. Mais il n'a pas eu de rapport avec elle, c'est vrai. Mais, alors pour réparer ce fait de l'avoir vu. Alors c'est ça l'histoire de bon. Bon, c'est ça l'histoire, c'est lui, c'est le Gilgul de Lot, etc. Donc il y a des histoires comme ça qui, a priori, elles ne se comprennent pas. Bon, et tout doit être amené à véritable réparation. Mais nous, on peut pas, on n'a pas de vision suffisamment. Oui, absolument, ils sont arrivés à réparation. Oui, c'est sûr qu'ils sont arrivés à réparation. Absolument, c'est la joie, elle est que... Nous, on voit que cette période-là est une période négative, en fait, mais eux, dans ce qu'ils sont, en sont arrivés à réparation, et le fait qu'ils soient, eux, arrivés à réparation, ça a pu donner, après, des énergies pour aller de l'avant. Voilà. Peut-être que tant qu'eux ne sont pas arrivés à réparation, les énergies pour aller de l'avant ne sont pas diffusées. Donc tout est lié, mais seulement nous on a une vision tellement restreinte, on n'a pas de recul, comme on dit, des événements, on ne peut pas savoir. Mais chaque chose qui arrive, elle doit être analysée avec profondeur. Il y a des choses que nous, évidemment, si ces rabbins-là, ils écrivent des livres pareils parce qu'ils ont des niveaux. Oui, bon, ils ont des dévoilements, c'est-à-dire c'est des rabbins qui avaient des mentors qui se dévoilaient comme des malachim qui leur dévoilaient certains secrets. C'est pour ça qu'on arrive à dire, ils disent de manière certaine, celui-là c'est le Gilgul de celui-là, et on trouve avec ils basent ça sur des versets, donc c'est construit. Alors il explique les événements qui sont marqués dans la Gemara, etc. Donc on comprend un peu les choses. Mais donc, c'est-à-dire, avec cette vision-là, on peut analyser les événements avec une autre vision, avec plus de recul, plus de maturité, et pas tout de suite s'emporter.
Et dire pourquoi et comment.
Oh, c'est comme ça. C'est...